Chapitre 3. Qui c'est cette fille? On ne sait pas. La voisine là-bas, Kyle Petrakis, a déclaré l'avoir trouvée debout devant le cadavre, nue comme un ver, les mains liées et le visage en compote. Elle a fait tout ça les mains liées? Le commandant Didi Warren s'accroupit pour examiner la dépouille calcinée de leur... quoi? Victime? Agresseur? Le corps était recroquevillé en position quasi fétale, les mains sur le visage. Geste de protection qui, à en juger par l'étendue des brûlures sur le crâne, les épaules et le visage du jeune homme, n'avait pas servi à grand-chose. « Feu chimique », indiqua une autre enquêtrice. « Tu mélanges du permanganate de potassium à de l'antigel et pouf !» Didi ignora sa collègue et se tourna vers Phil. « Alors, qu'est-ce qu'on sait ?»«
La maison est au nom d'Allen et Joyce Golding », répondit son ancien coéquipier. Un couple de retraités descendus en Floride pour y attendre les beaux jours. Mais ils ont laissé le petit dernier derrière eux. Devon Golding, 28 ans, bodybuilder le jour et barman la nuit.
« C'est Devon ?» demanda Didi, en montrant le corps.
« Sur ce coup-là, il va falloir attendre les empreintes digitales. »
Didi fit la grimace, commit l'erreur de respirer par le nez et grimaça de plus belle. Où est notre victime pyromane?
À l'arrière d'une voiture de patrouille. Elle a refusé d'être examinée par un médecin. Elle attend les fédéraux, qu'elle a elle-même appelés.
Les fédéraux? S'offusqua Didi en se relevant. Tu veux dire qu'elle a pris sur elle d'inviter les fédéraux à notre petite fête? Mais qui est cette fille?
L'autre enquêtrice répondit obligeamment. Elle a appelé le bureau du FBI à Boston en demandant à parler au docteur Samuel Keynes. Je dirais même plus. Elle a fait le numéro de tête. « Tu crois vraiment qu'on peut appeler ça une petite fête ?» continua-t-elle pour bavarder. « Ce serait plutôt un barbecue, non ?»
Didi prit le large. Elle tourna les talons, s'éloigna du cadavre, sortit du garage. Elle pouvait se permettre une attitude aussi dédaigneuse, maintenant qu'elle était montée au grade de superviseuse. Ou alors parce qu'elle relevait de blessures. Si Didi snobait cette nouvelle recrue de 35 ans, ce n'était en aucun cas parce que celle-ci avait repris son poste au sein de son ancienne équipe, poste que Didi elle-même ne pouvait plus occuper en raison de sa blessure. Non, ce que Didi retenait contre elle, c'était son prénom. Carole. Carole Manley. Un nom de courtier en assurance. De mère au foyer, éventuellement. Mais en aucun cas d'officier de police. Aucune enquêtrice un peu sérieuse ne pouvait se promener sous un nom pareil. Évidemment, aucun commandant de la criminelle un peu sérieux ne faisait une fixette sur le nom d'une nouvelle collègue ni n'était assez mesquin pour lui en tenir rigueur. Possible. Un an plus tôt, Didi ne se souciait pas des femmes qui s'appelaient Carole. Elle ne s'inquiétait pas pour l'avenir de l'équipe qu'elle formait avec deux de ses collègues, ni pour son propre rôle au sein de la brigade criminelle. Les enquêtes pour homicide étaient son pain quotidien, et cela lui allait très bien. Jusqu'à cette fin de soirée où elle était retournée examiner une scène de crime et où elle avait surpris l'assassin qui rôdait encore sur les lieux. Une brève rencontre plus tard, elle basculait à la renverse dans les escaliers et se retrouvait avec une fracture par arrachement de l'épaule gauche. Plus question de pointer un pistolet, plus question de porter son petit garçon. Pendant 6 mois, elle avait dû rester chez elle. Elle avait soigné ses blessures. Elle s'était fait du mouron pour son avenir et, oui, elle était devenue dingue. Mais petit à petit, comme son kiné le lui avait promis, ses efforts avaient porté leurs fruits. Au point qu'un jour, elle avait pu hausser l'épaule et qu'un autre, elle avait pu lever le bras. Elle n'avait pas encore retrouvé toute sa force musculaire, ni toute sa mobilité. Elle ne pouvait pas, par exemple, se mettre en position de weaver pour tirer à deux mains. Mais la douleur était gérable. La lésion en voie de guérison et son état de santé général excellent. Assez pour avoir convaincu la hiérarchie de l'autoriser à reprendre le service, mais avec restriction d'aptitude. Ce qui signifiait qu'elle passait désormais le plus clair de son temps à superviser ses collègues, plutôt qu'à enquêter sur le terrain. Elle se disait qu'elle pouvait s'en accommoder. C'était toujours du travail, et dans un cas comme dans l'autre, elle élucidait des crimes. Bien sûr,
Elle continuait ses séances d'ergothérapie 3 fois par semaine. Et elle s'y servait d'un haltère en guise d'arme de poing pour s'entraîner inlassablement à ouvrir son étui, dégainer, faire feu. Elle allait aussi au club de tir, pour tirer à une main. Ce n'était pas une technique aussi fiable, ce n'était pas académique, mais il fallait bien commencer quelque part. Autrement, Phil et Neil, deux des plus fins limiers de la brigade, se retrouveraient encombrés d'une débutante ad vitam aeternam. Le garage simple des Golding était un bâtiment indépendant, situé au fond de la propriété. Didi en ressortit à grandes enjambées, traversa le modeste jardin et gagna la rue. Le soleil se levait. Une aube grise et froide qui contrastait singulièrement avec l'effervescence ambiante. Des voitures de patrouille étaient rangées par choc contre par choc des deux côtés de cette petite rue passante, de même que le fourgon du légiste et plusieurs camionnettes de télévision, d'un volume plus imposant. Les premiers agents dépêchés sur place avaient admirablement travaillé pour interdire l'accès à la propriété. De la petite maison coloniale grise jusqu'au garage décrépit, ils l'avaient entièrement bouclée avec du ruban de scène de crime jaune, délimitant un périmètre strict qui faciliterait grandement la tâche de Didi. Cantonner les voisins trop curieux sur le trottoir d'en face? Fait. Maintenir ces enragés de journalistes à 50 mètres du policier le plus proche? Fait. Et pour la passe de Troyes, Didi découvrit la femme à l'arrière de la troisième voiture de patrouille, les épaules secouées de légers frissons sous une couverture bleue fournie par les services de police, le regard fixé droit devant elle. Une enquêtrice du commissariat de quartier était assise à côté d'elle. La portière était ouverte, comme si elles attendaient quelque chose ou quelqu'un. Ni l'une ni l'autre ne disaient un mot. Margaret, dit Didi, en saluant sa collègue assise à l'autre bout de la banquette. D'aussi près, elle comprit pourquoi la portière avait été laissée ouverte. Sur la scène de crime, les enquêteurs avaient étiqueté un sac de nourriture en putréfaction, qui avait été sorti d'une poubelle et éventré. Cette femme avait dû se plonger au moins jusqu'au coude dans ses cochonneries, à en juger par l'odeur de viande avariée et de lait tourné qui se dégageait de sa peau, sans parler des traînées visqueuses qui maculaient ses joues et imprégnaient ses cheveux. Didi, la salua en retour l'enquêtrice, stoïque. J'ai appris que vous aviez repris le service. Félicitations. Merci, répondit Didi, sans quitter l'autre des yeux. Leur assassin présumé, leur victime présumée. Elle avait l'air jeune, entre 25 et 30 ans, estima Didi. Des cheveux blonds, mi-longs, et des traits délicats qui auraient sans doute été séduisants sans cette collection de bleus, d'éclaboussures de sang et de traces de pourriture. Elle ne regardait pas Didi, toujours concentrée sur le dossier du siège conducteur. Émoussement affectif, nota Didi, un symptôme qu'on rencontrait le plus souvent chez les enquêteurs de la criminelle et les victimes de maltraitance chronique. Toujours de l'extérieur de la voiture, Didi se pencha vers la femme jusqu'à ce que leur visage soit à la même hauteur. « Commandant Didi Warren, » se présenta-t-elle. « Et vous êtes ?» La femme tourna enfin la tête. Elle dévisagea Didi, parut l'étudier comme si elle cherchait quelque chose, puis reprit sa contemplation du siège avant. Didi réfléchit un instant et dit « Pas beau à voir votre travail dans le garage. Feu chimique, à ce qu'il paraît. Si je résume, vous avez brûlé ce type en mélangeant un agent de conservation à de l'antigel. Vous avez appris ça chez les Jeannettes ?» Rien. Laissez-moi deviner. Devon avait l'air sympa quand vous l'avez rencontré. Beau gosse, travailleur. Vous avez décidé de donner sa chance à l'amour. Devon ? La femme, le regard toujours fixe, venait enfin de parler, d'une voix enrouée, comme si elle avait trop fumé ou trop crié. C'est le nom de la victime, Devon Golding. Comment ça? Vous n'avez jamais eu l'occasion de lui demander? Des yeux bleus impassibles. Ou gris, plutôt, pensa Didi, quand la fille lui décocha un regard. Je ne le connaissais pas. On ne s'était jamais vu. Pourtant, regardez où on en est. Il est barman, indiqua la fille, comme si Didi devait comprendre la suite toute seule. Ce fut le cas d'ailleurs. Vous êtes sortie hier soir, dans le bar où travaillait Devon. C'est comme ça que vous vous êtes rencontrés. On s'est pas rencontrés, s'entêta la fille. J'étais avec un autre type là-bas. Le barman, il nous a suivis à la sortie. Elle regarda de nouveau Didi. Il n'en était pas à son premier coup, affirma-t-elle posément. En août, cette fille qui a disparu, Stacy Summers, la façon qu'il a eue de m'attraper, de baisser la tête pour dissimuler son visage en m'entraînant dans des petites rues. Il ressemble au type sur la vidéo de l'enlèvement. À votre place, je fouillerais sa maison de fond en comble. Stacy Summers était une étudiante de l'université de Boston qui avait disparu en août. Jeune, belle, blonde, elle avait sur ses magnifiques portraits le genre de sourire éclatant avec lequel on était sûr de faire les gros titres dans tout le pays. Ce qui avait été le cas de cette affaire. Malheureusement, 3 mois plus tard, tout ce qu'avait la police, c'était des images de mauvaise qualité où on la voyait entraînée à la sortie d'un bar par une mystérieuse grande brute. Point final. Pas de témoins, pas de suspects, pas d'indices. La piste s'était refroidie, même si on ne pouvait pas en dire autant de l'intérêt des médias. Vous connaissiez Stacy Summers ? Demanda Didi. La fille fit signe que non. Vous êtes une amie de la famille ? Vous étudiez à la même université ? Vous l'aviez rencontrée dans un bar ? Non. Vous travaillez dans la police ? Non. Au FBI ? Toujours non. Alors l'intérêt que vous portez à l'affaire Stacy Summers ? Je lis les journaux. Évidemment. Didi pencha la tête sur le côté. Étudia son sujet. Vous êtes en relation avec un agent fédéral, fit-elle remarquer. C'est un ami de la famille? Un voisin? En tout cas, quelqu'un que vous connaissez suffisamment bien pour l'appeler sur sa ligne directe? Ce n'est pas un ami. Alors qui est-ce? Un vague sourire. Je ne sais pas. Il faudra lui poser la question. Comment vous appelez-vous? Dit Didi en se redressant. Son épaule gauche commençait à lui faire des misères. Sans parler du fait que cette conversation mettait sa patience à rude épreuve. « Il ne connaissait pas mon nom, » dit la fille. « Le barman. Devon ?» Il s'en fichait de savoir qui j'étais. J'étais arrivée au bar toute seule. D'après lui, ça a suffi à faire de moi une victime. « Vous étiez seule dans ce bar ? Vous avez bu seule ?»« Seulement le premier verre. » »« C'est généralement comme ça que ça se passe. » »« Et vous en avez pris combien ?» Des verres. Pourquoi? Parce que si j'étais saoule, c'était bien fait pour moi. Non, parce que si vous étiez saoule, votre témoignage est moins fiable. J'ai dansé avec un type presque toute la soirée. D'autres personnes nous ont vus. Elles pourront corroborer. Didi tica. Elle n'aimait toujours pas les réponses de cette femme, ni le fait qu'elle emploie le terme « corroborer », qui appartenait au vocabulaire des forces de l'ordre plutôt qu'à celui du commun des mortels. Le nom de votre cavalier ?
Monsieur, on ne se serait pas déjà vu quelque part, murmura la fille.
Au bout de la banquette, l'enquêtrice de quartier leva les yeux au ciel. Manifestement, Didi n'était pas la première à poser ces questions, ni à obtenir ce genre de réponse.
Est-ce qu'il pourra corroborer ? Demanda-t-elle en insistant sur le terme juridique.
S'il a repris connaissance. Ma belle. Vous devriez fouiller le garage. Il y a une tache de sang dans le coin au fond à gauche. J'ai senti l'odeur pendant que je faisais les poubelles à la recherche d'une arme.
C'est à ce moment-là que vous avez trouvé le permanganate de potassium ?
C'est le barman qui avait jeté le bouquet. Sans doute après s'en être servi pour piéger une autre victime. Je ne suis pas la première. C'est certain. Il était beaucoup trop sûr de lui. Trop bien préparé. Si c'est sa maison, fouiller sa chambre, il y aura des trophées. Les prédateurs comme lui aiment bien se faire des frissons tout seuls avec le souvenir de leurs anciennes conquêtes.
Didi la regarda. Depuis qu'elle travaillait à la brigade criminelle, elle en avait interrogé des victimes hystériques, des victimes en état de choc. Face au crime, les émotions n'obéissent à aucune norme. Mais jamais elle n'avait rencontré une victime comme celle-là. Ses réactions sortaient totalement de l'ordinaire. En fait, elles sortaient même de ce qu'on pouvait attendre d'une personne saine d'esprit.
« Saviez-vous ce que Devon, le barman ?
ce que le barman avait fait à d'autres femmes? Une amie vous a raconté sa mésaventure? Qu'elle s'était fait peur avec lui? Ou bien vous avez entendu des rumeurs sur ce qui est arrivé à une amie d'amis? Non. Mais vous aviez des soupçons, insista Didi d'une voix sévère. Au minimum, vous pensez qu'il est impliqué dans la disparition d'une autre fille, dont l'affaire a fait la une de tous les journaux. Alors quoi? Vous avez décidé de prendre les choses en main? De jouer les héroïnes et d'écrire vous-même les gros titres? Je n'avais jamais vu ce barman avant hier soir. J'ai quitté la boîte avec un autre naze. C'était lui que j'essayais de piéger. La fille haussa les épaules, le regard de nouveau rivé sur le dossier du siège. La soirée aura été riche en surprises. Ça arrive, même à une fille comme moi. Mais qui êtes-vous? De nouveau ce sourire qui n'en était pas un. Cette expression encore plus troublante sur le visage de la fille. Je ne connaissais pas ce barman. J'avais entendu parler de l'affaire Stacy Summers. Qui n'en a pas entendu parler? Mais jamais j'aurais pensé, disons simplement que je n'avais pas prévu qu'un monsieur muscle de boîte de nuit allait m'assommer et m'embarquer pour faire de moi son jouet. Mais quand ça s'est produit, je m'y connais en technique de survie, en autodéfense. J'ai utilisé les ressources à ma disposition. Vous avez fouillé ces poubelles? Vous n'en auriez pas fait autant. La fille l'interrogeait du regard. Pour une fois, ce fut Didi qui détourna les yeux. Il avait déclaré la guerre, expliqua la fille. Je n'ai fait que la terminer. Et ensuite, vous avez appelé le FBI. Je n'avais pas le choix, en l'occurrence. Didi eut soudain un vague soupçon, assez désagréable. Elle étudia sa victime, une jeune femme d'une bonne vingtaine d'années, qui s'y connaissait manifestement en matière de police et d'autodéfense. « Cet agent spécial, c'est votre père ?» La fille la prit enfin au sérieux. « Pire, » répondit-elle.